RMC, 9h, midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules avec aujourd'hui Florent Guébali, l'entrepreneur dans la transition écologique, Charles Consigny, l'avocat, Jean-Loup Bonamy, le normalien et professeur de philosophie, ou normalien et professeur de philosophie. Et avant d'accueillir notre invité, tout à l'heure, à midi moins 20, on évoquera ces villes qui limitent l'accès à leurs piscines en pleine canicule. Alors, ce sont des villes comme Rueil-Malmaison, Neuilly-sur-Seine, parce qu'en fait, elles voient un afflux de gens qui ne sont pas dans la commune et qui viennent profiter des piscines municipales. Alors, est-ce qu'elles ont raison de limiter l'accès ou pas, ou c'est discriminant? Vous venez en discuter tout à l'heure avec nous à midi moins 20 au 32-16. En attendant, on va accueillir notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Il est sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, directeur du journal L'Humanité. Monsieur le sénateur Fabien Gay, bonjour.
Bonjour.
Finalement, vous êtes de droite, Fabien Gay?
Ça commence.
Mais non, mais parce que
je suis content de vous voir.
Tu t'appelles pas Fabien Droit. Non,
mais parce que j'ai vu que les locaux de votre journal L'Humanité étaient climatisés.
Oui. Bon, beaucoup de locaux qui nous appartiennent pas d'ailleurs.
Pour les gens de gauche, la clim, c'est un truc de droite, voire d'extrême droite.
Le communisme croit au progrès technique.
Non mais le communisme croit au progrès technique.
Vous confirmez que c'est climatisé chez vous?
Oui, on a fait, enfin le, on loue, on est locataire, pour que vous sachiez tout. On a renégocié notre loyer, si ça vous intéresse, en octobre dernier. On paye 680 000 euros à l'année, comme ça je suis assez transparent. Il y a eu donc des travaux qui ont été faits et donc la climatisation a été installée. D'ailleurs, il n'y a pas que l'Humanité dans ses locaux, il y a une cinquantaine d'entreprises partout. Donc
pour travailler, c'est quand même mieux la clim.
Et évidemment, personne n'a dit le contraire. Et ici, sur ce plateau, on est climatisé. Non, la vraie question.
Pourquoi nos enfants, là, en ce moment, pourquoi nos enfants, en ce moment, pour la plupart, sont dans des écoles surchauffées? Pourquoi nos petits vieux sont soignés dans des hôpitaux surchauffés? Comment ça se fait qu'en 2026, on accepte ça?
Alors, la vraie question est, bien sûr, qu'il vaut mieux climatiser les choses. Et je suis d'accord avec vous, je vous ai entendu avant de rentrer. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut fermer les écoles, parce que je viens d'une ville populaire, le Blanc-Mesnil, je vous l'ai souvent dit. Et vous savez, les classes populaires vivent dans les logements très mal isolés. Donc, l'hiver, ils ont très froid et l'été, extrêmement chaud. Et donc, évidemment, il vaut mieux aller à l'école, dans des îlots de fraîcheur, de végétalisation, et évidemment accueillir l'ensemble des enfants de la République. Oui, nous avons un retard sur la climatisation, et il faut le faire.
Est-ce que c'est à cause de la gauche?
Bon, arrêtez avec ça, la gauche, c'est pas le débat.
Si, parce que, pardon.
Pourquoi la gauche?
C'est
la
gauche comme qui dirige. Marine Le Pen qui propose un plan clim.
C'est la gauche qui dirige le pays depuis 10 ans. Bon, donc mettons ça, arrêtez, 30 secondes. Ne faites pas de la politique politicienne,
quand même,
ça vous ressemble pas. Peut-être un peu trop. Donc sérieusement, donc il faut un plan de climatisation évidemment, mais au-delà de ça, évidemment pour les écoles, pour les EHPAD, mais au-delà de ça, il faut changer le système. La question, c'est l'accès à un droit, évidemment à la fraîcheur, qu'on ait des îlots de végétalisation. C'est tout ça qu'il faut. Et on a un gouvernement, pardon, je le dis, qui nous explique sur les plateaux de télévision, faut bien s'hydrater, faut de la climatisation, mais qui a coupé le fonds vert, qui permet aux collectivités territoriales, notamment de végétaliser les cours d'école ou les bâtiments publics. Et là, on a une vraie question. C'est qu'on était à 2,5 milliards, on est passé à 850 millions, et donc ce gouvernement, en réalité, n'agit pas concrètement sur la question du réchauffement climatique. Et donc les collectivités, qu'elles soient de droite ou de gauche, elles investissent beaucoup pour végétaliser.
Le cornu dit l'inverse. Le cornu dit c'est les collectivités qui font pas le boulot.
Bien sûr. Bah oui, parce que en ayant
donc divisé. Chacun se renvoie la patate chaude.
Non, en ayant divisé.
Pas de politique politicienne, vous en faites aussi.
En ayant divisé. Ben bah, pardon, c'est les faits.
Chacun se renvoie.
Pardon, vous êtes journaliste.
Oui.
Donc les faits.
Oui.
Rien que les faits.
Oui.
Donc,
c'est vrai que le fonds vert a été
divisé. Est-ce que le fonds vert a été divisé par trois, oui ou non?
Il n'y avait pas la clim dans le fonds vert. Ouais. Donc ça
non, je vous ai pas dit la clim. Je vous dis végétaliser un certain nombre de bâtiments. Mais on a besoin aux côtés de la climatisation. Parce que la climatisation, ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga.
Mais quand il fait
évidemment,
40,
ça réchauffe.
Des arbres supplémentaires,
évidemment,
ça
la question du béton. Aujourd'hui, nos villes ne sont pas adaptées. Et donc, si tout le monde est climatisé, c'est plus
mauvais. La plupart des villes sont dirigées par la gauche, Fabien Gay.
Mais arrêtez avec. Vous êtes dans un débat.
Non mais Fabien Gay, bon, pardon.
Allez-y.
La plupart des grandes villes de France sont dirigées par la gauche depuis des années. Donc, Paris, ça fait 25 ans qu'il y a une alliance entre les socialistes et les écologistes. On peut pas.
Et les communistes.
Et on peut pas. Pardon, on peut pas arriver comme l'a fait Monsieur Grégoire ce matin. Et on a l'impression qu'il découvrait qu'il allait avoir des vagues de chaleur alors que ça fait 25 ans qu'il est au pouvoir.
Personne ne le découvre puisque les faits le montrent. C'est que sur après la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 2010, nous avons vécu 25 épisode de canicule, d'accord, sur 65 ans. En 15 ans, nous avons vécu 25 épisodes. Donc, c'est en train de se rapprocher. Donc, c'est une question fondamentale.
L'analyse.
Un d'adaptation. Donc, la climatisation, elle peut être une question d'adaptation. Mais au-delà de ça, il faut changer le système. D'accord? Vous entendez ça? Il faut revégétaliser. Il faut arrêter de bétonner. Il faut un accès au droit, évidemment, à la fraîcheur. Que par exemple, lorsqu'il y a des épisodes de canicule comme nous le vivons, que tous les bâtiments publics qui accueillent de la climatisation soient ouverts au plus grand nombre. Vous voyez? Il faut réfléchir en ce sens-là
et changer.
Et je vais pas vous faire plaisir, mais je vais le dire quand même. Changer le système capitaliste. Le dépasser parce qu'il est un des éléments du réchauffement climatique, nous le savons aujourd'hui. Donc, c'est un travail au long cours, donc vous pouvez faire de la climatisation, et il le faut partout où nous le pouvons, notamment pour les personnes âgées et pour les enfants, mais
Monsieur le sénateur,
merci de m'avoir laissé dire un mot.
C'est très
allez-y,
beau.
Monsieur Charles de Cossy.
Non, mais simplement.
Pourquoi
Charles
vous l'avez glissé à chaque fois que vous lui mettez
parce qu'il trouve qu'il a un air noble.
C'est gentil. C'est aussi son inconscient. Il souhaite m'envoyer au goulag.
Oh, donc il peut couper la tête, plutôt.
Il prépare. Vous êtes en forme, hein. La canicule vous a pas. Ouais, je vois que vous êtes en forme.
Je serai comme les Russes blancs exilés. Bon.
Allez.
Un chauffeur de taxi à Nice.
Exactement. Mais pourquoi pas d'ailleurs.
Traqué par le KGB.
M'en fous.
Bon allez, soyons sérieux, posez votre question.
La gauche française se berce d'illusions en disant oui, il faut changer le système capitaliste.
C'est à cause du capitalisme.
Donc moi je veux bien, très bien. Faisons un système vraiment d'inspiration socialiste totale en France. Enfin, total. On arrête les avions. On collectivise le logement, on chronomètre les douches, on généralise les toilettes sèches, on fait un truc, mais total. Est-ce que ça va changer de 0,00000001% la situation climatique mondiale? Mais rien, ça ne va rien changer. C'est-à-dire que les Chinois vont continuer comme ils font en ce moment, les Américains vont continuer, les Indiens vont continuer, les Brésiliens vont continuer, le reste de l'Europe va continuer, l'Afrique va continuer. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Quand vous dites faut changer le système capitaliste, c'est mignon presque, c'est touchant, mais ça n'est pas du tout être pragmatique.
Je vous remercie, d'accord. Alors, la question, et je ne crois pas que vous soyez climato-sceptique.
Pas du tout.
Je ne vous accuse pas. Vous dis, je ne crois pas que vous soyez climato-sceptique.
Donc c'est difficile de l'être, là.
C'est difficile de l'être, et je vous en remercie. Il en existe, vous en conviendrez, y compris en France.
Oui.
Vous en conviendrez.
C'est comme les poissons volants, ça existe, on ne pensait pas à la majorité.
Donald Trump, par exemple, président des États-Unis.
Oui, mais c'est ça, ne pas être climato-sceptique, mais adorer Trump, est-ce que c'est ne pas être climato-sceptique?
Non, mais donc ça existe. Donc la science nous dit quoi? Par exemple, depuis les accords de Paris, il y a plus de 10 ans, si nous ne laissons pas 80% des énergies fossiles dans le sol à l'horizon 2050, c'est-à-dire demain, vous êtes d'accord avec moi, monsieur Consigny, vous aurez, en réalité, vous dépasserez les 1,5% du réchauffement climatique. 80% des énergies fossiles dans le sol. Donc, ça nous impose, au global, en France comme partout dans le monde, que nous prenions conscience de ça, et donc de changer nos modes de consommation, de production, de transport, y compris en France, où nous avons un mix électrique qui dépasse 70%, évidemment, de l'énergie nucléaire, mais notre mix énergétique, il dépasse 60% des énergies fossiles. Donc, nous avons un défi d'avenir, c'est dans les 20 prochaines années, nous devons électrifier nos usages en France comme partout dans le monde et sortir des énergies fossiles. Donc ça, oui, c'est le système capitaliste qui continue à épuiser le vivant et la nature et qui veut continuer à épuiser, évidemment, et à puiser les ressources dans la Terre, alors qu'il nous faut faire tout l'inverse. Pardon de vous le dire, c'est un défi d'avenir et donc, évidemment, nous ne réussirons pas seuls en France, mais c'est un mouvement mondial. Et les COP devraient justement nous permettre de faire ça. Malheureusement, elles sont confisquées par une partie de l'élite. Aujourd'hui, les Américains, les Chinois qui sont dans une course à l'échalote. Et on sait qu'avec ça, nous allons droit dans le mur. Pardon de le dire, mais c'est une question d'avenir et nous devrions débattre de ça. plutôt que savoir qu'on va envoyer au goulag.
Jean-Luc, on a intérêt. Mais moi, je suis un peu surpris.
Allez-y.
Parce que il y a deux choses là quand vous parlez de cette histoire de sortir du système capitaliste.
Le dépasser.
De dépasser le système capitaliste. Premièrement, c'est que dans l'histoire du XXe siècle, les pays communistes ont été les plus gros pollueurs et justement pour des raisons de fond. Votre ami Staline se moquait de l'écologie. Il fallait construire des barrages, développer l'URSS.
Il est mort en quelle année, Staline ?
En 53.
Je suis né en quelle année ?
Vous êtes né en quelle année ?
1984.
Oui, mais vous avez un héritage. Dans ce cas-là, il ne faut pas être membre du Parti ami. Communiste.
Ouais, je peux être ami avec M. Truchot et Marshall, puisque nous nous connaissons. Mais difficile d'être ami avec quelqu'un qui est mort.
Ou votre ami Ceausescu.
Allez, soyons sérieux, revenons.
Mais je suis très sérieux, c'est-à-dire que dans l'histoire, le communisme n'est absolument pas une doctrine écologiste. Mmh. Et les régimes qui se sont réclamés du communisme, regardez la Chine aujourd'hui. La Chine est dirigée par le PCC, le Parti communiste chinois. On peut dire que quand même, ça a quand même pas mal bétonné. Bon. Et deuxièmement, j'aimerais que vous me citiez un seul pays dans le monde qui aujourd'hui pourrait vous servir d'exemple, qui a dépassé, comme vous dites, le système capitaliste. Moi, je suis toujours un peu surpris, j'entends ça. J'entends des Jean-Luc Mélenchon se définir lui-même comme collectiviste. Je vous entends dire qu'il faut dépasser le régime capitaliste. J'aimerais que vous me donniez des exemples de pays qui l'ont déjà fait et où ça marche.
Alors, là où vous avez raison, c'est que le XXe siècle, quels que soient les systèmes qui ont été mis en place...
Que Staline, ça n'a pas trop végétalisé.
Vous avez raison. Vous avez raison sur une question, c'est que le XXe siècle, quels que soient les régimes en place et au cours de son histoire, et quels que soient les continents dans lesquels nous nous plaçons, n'ont pas mis l'écologie au centre. Ce n'était pas une question. Dans les années 50, il n'y avait pas que
l'URSS. Mais le communisme était très productiviste même.
Bien sûr. Évidemment, parce qu'il fallait reconstruire le pays, notamment en France. C'est toute notre histoire. Mais personne ne parlait des questions écologiques. Non. Jaurès... puisque fondateur de l'humanité, vous allez m'en parler dans quelques instants, ne parlait pas d'écologie, il est mort en 1914 et personne ne parlait évidemment d'écologie. Mais le grand défi du siècle aujourd'hui, et pardon de me définir comme ça, le grand défi du 21e siècle, il est sur deux points. Nous n'avons qu'une seule planète. Et si nous ne stoppons pas le cycle du réchauffement climatique, nous allons tous périr.
Vous êtes décroissant.
Et la deuxième question, attendez, j'en viens, c'est de sortir des millions, des dizaines, des centaines de millions de gens de la très grande pauvreté. Voilà. Donc, il y a une question, c'est qu'effectivement, sur la question de la production et de la consommation, nous le voyons, par exemple, il y a une accélération, je vais répondre à votre question, il y a une accélération des traités de libre-échange, dont on sait aujourd'hui qu'ils sont climaticides, parce qu'on importe des produits dont on interdit aujourd'hui ici la production, c'est par exemple tous les traités avec le Mercosur sur la question de la viande, et on n'a pas intérêt à avoir des produits qui font trois fois le tour
des gens de la pauvreté.
Il vaut mieux produire et consommer local, ça c'est une véritable question, et peut-être qu'il faut s'interroger sur la question de quelle consommation, pourquoi faire. Évidemment, c'est des questions qu'il nous faut mettre évidemment sur la table.
Et alors, quel pays peut vous servir de modèle, quel pays a dépassé le système capitaliste
aujourd'hui, aucun.
Aucun.
Mais bien sûr.
Une indication.
Mais c'est
quand
un défi. Pardon. Mais c'est un défi d'avenir que nous avons à co-construire avec les peuples. Moi, je suis de celles et ceux qui refusent évidemment la mise en compétition et la mise en concurrence. Je suis pour la mise en commun parce que je pense que si tous les peuples du monde évidemment arrivent à partager les pouvoirs, les savoirs et les richesses, nous pouvons réussir, évidemment, le défi d'avenir.
Si tous les braves gars du monde se donnaient la main.
Ah ben, autrement, on peut continuer. Vous pouvez faire comme Monsieur Consigny, dire « Ah, c'est un peu bisounours ». Nous pouvons continuer dans le chemin qui est aujourd'hui tracé par un certain nombre de gouvernements, c'est-à-dire dans le mur. Et plus nous allons continuer dans le système dans lequel nous allons,
C'est ça le problème du communisme. Ouais. C'est que le communisme a longtemps eu un modèle de référence à l'étranger, la grande lueur à l'Est, comme disait Romain Rolland, et qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de modèle et que ce que vous proposez n'a été tenté par personne dans le monde.
Non,
c'est le problème, vous n'avez
non,
pas...
Non,
parce
non,
que
personne ne veut le tenter. Il y a des expériences qui se font, notamment
au Chiapas.
Non, mais pas, arrêtez de caricaturer. Il y a des choses qui se font au niveau local. Il y a des gouvernements qui s'interrogent, notamment en Amérique latine. Mais c'est une prise de conscience mondiale qu'il nous faut. Moi, si vous me dites, écoutez, tout va bien dans le système tel que nous vivons aujourd'hui, tout va bien, il y a des millions de pauvres en France, par ce système dégénéré, et nous vivons
des épisodes
de canicule.
Et notamment, même la Chine communiste a découvert les vertus du capitalisme, et comme ça d'ailleurs que les Chinois sont sortis de la pauvreté.
Mais ils avaient un défi considérable, c'est de sortir 1 milliard d'êtres humains de la situation de très grande pauvreté
en l'espace de 20 ans.
En l'espace de 20 ans.
Qui avait été plongé par Mao.
Pour revenir à je ne suis pas un admirateur du système chinois, mais si c'est ça que vous voulez.
Fabien Gay, pour revenir à des choses.
Non, c'est une
question. Alors, attendez, on va faire la pause.
Pour revenir à des sujets concrets, par exemple, est-ce que vous êtes pour le congé climatique que propose Marine Tondelier?
Alors, moi, j'ai pas entendu le congé climatique. Par contre, je vous ai entendu avant de rentrer. Je pense que pour les métiers extérieurs, les ouvriers du bâtiment, par exemple, je pense que nous devrions nous poser la question législative qu'à un certain niveau de température, est-ce que c'est 35, 36, 38, j'en sais rien, il faudrait le définir ensemble, il ne faudrait plus pouvoir travailler en extérieur. Vous avez vu, il y a des gens qui... il y a un jeune ouvrier de 19 ans, un couvreur, qui est mort, évidemment, parce que toute la journée, il a été mis au soleil sur un toit. Donc là, je pense que nous devrions nous poser cette question.
Mais il y a déjà un cadre législatif.
Qu'un certain nombre d'employeurs mettent un certain nombre de salariés en télétravail lorsque c'est possible, évidemment.
Vous restez avec nous, le sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, Fabien Gay. Question dans un instant de Flora Guebali. À tout de suite avec les GG, avec les Grandes Gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story avec le sénateur communiste Fabien Gay. Il est aussi directeur du journal L'Humanité. Question de Flora Guebali qui est avec nous aujourd'hui.
Vous dites que les deux enjeux du siècle, c'est le climat et les inégalités et la pauvreté. J'ai entendu Jeff Bezos cette semaine dire qu'il fallait priver certains humains d'eau douce pour les besoins de l'intelligence artificielle, mais de manière très premier degré. C'est quoi, pour vous, la réponse politique de la France à ça? Ça devrait être quoi, la réponse politique de la France?
À Jeff Bezos ou à la question de l'eau?
À ces géants du numérique qui privatisent les ressources et petit à petit, et qui disent tranquillement qu'il va falloir priver les humains d'eau douce pour les besoins de l'intelligence artificielle.
Donc, je vous rassure, je vous réponds d'abord sur Jeff Bezos, je suis en désaccord avec lui. Personne ne pensera le contraire. Non, on a une vraie question autour du numérique, hein, qui est une nouvelle frontière de l'humanité, comme l'espace, comme la mer. Aujourd'hui, elle est dans nos vies. L'intelligence artificielle est déjà dans nos métiers. On parlait des éditeurs de presse, mais évidemment dans la santé, dans un certain nombre de domaines, l'intelligence artificielle, en réalité, est déjà là et elle va se développer. Il y a besoin d'avoir une souveraineté numérique en France ou au sein de l'Union européenne. Par exemple, conserver nos données, nos data, est une vraie question. Aujourd'hui, on dépend beaucoup des Américains et des Chinois, donc il y a une vraie question autour du cloud européen. Et en réalité, nous ne sommes pas si mauvais que ça. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont leaders. Donc il y a une vraie question de conserver ça. Mais je suis aussi élu de territoire. Et par exemple, en Seine-Saint-Denis, c'est l'installation de près d'une dizaine de data centers qui vont se faire, par exemple au Bourget ou dans une ville de Dugny, pas loin de chez moi. Dugny est une ville moyenne, 15-20 000 habitants, il y a un gros data center qui va prendre quasiment le même nombre d'eau et d'électricité que les 20 000 populations. Donc là, on a une vraie question autour de ça. Donc il faut arriver à allier enjeux de souveraineté et de ne pas concentrer tous les data centers dans le même territoire. Alors, par exemple, nous, on a un territoire désindustrialisé et on nous propose que des data centers ou des entrepôts Amazon qui sont peu pourvoyeurs d'emplois. Et là aussi, il y aurait besoin de travailler sur ce système. Donc, il faut l'équilibrer sur les territoires. Et évidemment, enjeu de souveraineté numérique. Donc, c'est des enjeux assez complexes qu'il faut manier avec lucidité. Mais je ne suis évidemment pas pour tout laisser. Évidemment, soit aux Américains, soit aux Chinois.
D'accord, mais sauf qu'ils ont été meilleurs que nous.
Ah ben oui, ils vont plus vite.
Non mais moi, ma question... Ma question, c'est comment vous faites? Parce que là, vous ne nous proposez pas... Enfin, vous faites un constat...
Je vous dis qu'il faut développer... Alors, peut-être... Pardon, je recommence.
Vous n'êtes pas pour tout laisser aux Chinois ou aux Américains, mais du coup...
Non, je suis pour qu'on développe des solutions françaises, européennes, qui existent déjà, et dont il faut continuer, évidemment, à investir dans cela. Et je vous le redis, il y a des entreprises françaises extrêmement fortes sur ces sujets d'enjeux numériques ou d'enjeux d'intelligence artificielle. Et après, sur le terrain, notamment sur les questions de data center, je ne suis pas pour mettre tout dans les mêmes territoires. Je suis pour qu'on l'harmonise
mais
pour l'ensemble du territoire métropolitain.
Vous tapez sur Amazon, c'est 25 000 emplois en CDI en France, 100 000 si on prend les emplois indirects. Moi, j'adore.
Oui, mais l'emprise.
Les responsables politiques français qui tapent sur l'emploi venu de l'étranger. Mais quels sont les emplois qu'on crée en France? Quelles sont les grandes boîtes qu'on a créées en France ces dernières années? On n'a pas créé Google, on n'a pas créé Amazon. Alors ça, en revanche, réguler, ça, les sénateurs, vous le faites beaucoup avec les députés, réguler, faire des normes, encadrer, interdire, etc. Mais on préférait plutôt qu'innover, créer des emplois, créer des sites dans des régions effectivement défavorisées où s'installent des entreprises françaises. Ben non, c'est Amazon. Alors on peut ne pas aimer Amazon, mais je regardais les chiffres d'Amazon, c'est 7000 emplois supplémentaires CDI d'ici 2028. Voilà, ça c'est du concret.
Ouais. Emploi CDI extrêmement mal payé et je ne sais pas si vous avez déjà été
visité. C'est vrai qu'on a la fonction publique,
vous avez déjà été visité un entrepôt Amazon et les conditions de travail, mais si vous voulez, on pourra y aller ensemble. Je vous ai déjà proposé une fois de venir à Saint-Denis, puisque vous commentez beaucoup Saint-Denis, vous avez pour l'instant dit oui, mais vous n'êtes pas venu, donc je vous repose.
On vient à Saint-Denis sans votre invitation, vous savez.
Ben, non,
mais il y a quelques stations de métro.
Bah, bon, très bien. Quand vous y avez été, à Saint-Denis? Vous y avez été quand, alors?
Là, récemment?
Oui.
Non, pas récemment. Pas depuis que votre ami Bagayoko.
D'accord. Donc, je vous réinvite. Voilà.
Avec plaisir.
Et je vous invite à venir avec moi dans un entrepôt Amazon. Vous allez voir les conditions de travail. Et en réalité, vous pouvez avoir des CDI à 10 heures par semaine. Oui. Donc c'est pas un emploi à 35 heures payé au-dessus du SMIC. Donc je le dis, évidemment, vous avez raison. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas créé une entreprise d'industrie de plus de 1000 salariés. Donc on a une vraie question. Mais on pourrait le faire.
Mais on peut se poser la question pourquoi?
Pourquoi?
Le coût du travail, non, pas le coût du travail.
On a le capitalisme le plus aidé du monde. 211 milliards d'aides publiques chaque année, sans condition, ni transparence, ni suivi, ni évaluation. Donc on accompagne beaucoup, en réalité, les entreprises. Et une part de cet argent public, de ces 211 milliards, qui sont donc les impôts de l'ensemble des Françaises et des Français, partent en dividende. Donc là, il y a une vraie question. C'est d'abord de conditionner, évidemment, ces aides publiques.
Mais vous savez,
et par exemple,
aides,
sur l'aéronautique.
Vous savez que les aides, elles ne servent qu'à permettre aux entreprises.
Oui, de compenser. Je connais.
Non, de survivre au système fiscal et social français.
Oui,
s'il n'y avait pas ces aides.
C'est un enfer. C'est un enfer fiscal.
Excusez-moi.
Pour les grandes entreprises, un enfer fiscal.
Les grandes entreprises ont les moyens d'essayer de survivre à tout ça. Mais en revanche, tous ceux qui font vivre ce pays, et notamment, ne serait-ce que les jeunes entrepreneurs, les gens qui veulent créer des boîtes et tout, ils ont beaucoup de mal à le faire parce que l'État prend tout en France.
Une des vraies questions quand vous êtes un jeune entrepreneur, donc sortons
les
des grandes entreprises.
Les indépendants, ils donnent tout leur argent à l'État.
Grandes entreprises qui se soustraient pour une majeure partie d'entre elles à l'imposition, ce qui devrait d'ailleurs vous scandaliser. Pour revenir donc aux jeunes entrepreneurs et aux TPE-PME, la vraie question lorsqu'on parle avec des jeunes entrepreneurs et celles et ceux qui créent 5 ou 6 emplois, qui ont une TPE probablement, la première des questions n'est pas l'enfer fiscal comme vous le décrivez ici. La première des questions, c'est l'accès au crédit pour pouvoir investir. Les banques ne prêtent pas ou elles prennent à des taux tellement élevés qu'en réalité, elles saignent les entrepreneurs. Première question, il faudrait donc que la BPI ou d'autres banques puissent prêter aux entrepreneurs. Deuxième question, lorsqu'on parle évidemment des jeunes entrepreneurs, c'est la question du loyer. Une vraie question, c'est de trouver un loyer et un loyer peu cher. Troisième question, c'est la question de la formation d'un certain nombre de salariés. Ils ne trouvent pas de salariés assez bien formés. Donc ça, c'est les trois questions majeures. Et arrive en cinquième position,
pas que ça,
l'enfer fiscal, je ne sais pas d'où vous sortez. Évidemment, parce que lorsqu'on est un jeune entrepreneur, pardon,
mais
vous savez combien il existe de dispositifs d'accompagnement
mais
pour aider les entreprises.
Mais ils n'en veulent
pas
de vos dispositifs d'accompagnement.
Donc il existe 2267 dispositifs
pour
accompagner.
Ils n'en veulent pas. Quelqu'un qui crée une boîte,
c'est très loin de ce que vous imaginez.
Monsieur le sénateur, quelqu'un qui crée une boîte, il n'a pas du tout envie d'aller taper à la porte à Bercy pour avoir un putain de dispositif d'accompagnement. Excusez-moi, c'est juste que même pour prendre un stagiaire en France, c'est une usine à gaz. Même pour prendre un stagiaire, il faut remplir 400 000 formulaires, il faut le déclarer 400 000 fois, il faut verser cela. Mais si c'est une réalité, c'est une réalité.
J'en accueille une cinquantaine.
Demandez aux indépendants. Mais parce que vous avez des équipes qui s'occupent de ça.
Demandez aux indépendants.
Vous en
avez pris stagiaires dans votre cabinet d'avocat.
J'en ai tout le temps des stagiaires.
Alors, vous remplissez quand même papier.
On se tape les usines à gaz. Donc, excusez-moi. Et demandez à n'importe quel entrepreneur ce que c'est que pour lui l'URSSAF. Demandez-leur ce que c'est. C'est un organisme qui brise leurs rêves, qui leur vole leur argent, qui les vole tout simplement. C'est du vol aujourd'hui.
Alors c'est quoi le système
que
vous proposez?
Donc ne vous étonnez pas.
Quel est le système que vous proposez? 0% d'impôt.
Moi je vous propose rien. Oui, je vous propose effectivement.
Chacun, je propose
un système.
Celles et ceux qui n'ont pas d'argent,
avec plus de liberté,
n'ont pas accès à la santé, n'ont pas accès à l'éducation.
Regardez, vous qui êtes patriote quand même, j'en suis sûr. Vous trouvez pas que c'est une humiliation?
Moi, je paye mes impôts en France.
Vous trouvez pas que
contrairement à ce qui se réclame beaucoup de patriotes,
on n'est pas au comité central.
Et qui ne paye pas d'impôts en France.
On laisse parler son interlocuteur.
Oui, bien sûr. Allez-y.
Bon. C'est pas une humiliation pour la France. Regardez comment nous traite Jeff Bezos. Comment nous traitent les grands patrons de l'IA américains. Tous ces gens qui règnent sur le monde aujourd'hui, Elon Musk, etc. Vous avez pas l'impression qu'on est un tout petit peu déclassé quand ces gens nous prennent pour un village de vacances? Vous trouvez pas qu'on est un tout petit peu ridicule quand ces gens ne nous consultent pas pour quoi que ce soit? Il n'y a pas une décision d'ampleur mondiale sur laquelle aujourd'hui la France a voix au chapitre. On est devenu le Club Med pour ces gens. C'est pas la honte, ça, quand même, pour la France? Pour le pays de Napoléon, de Louis XIV, de De Gaulle?
Allez-y,
posez-vous la question, c'est tout.
Répondez aux camarades Consigny.
Alors, je ne partage pas le pessimisme.
Moi, je trouve que c'est humiliant pour la France.
C'est-à-dire, allez, nous sommes déclassés, tout le monde nous roule dessus, blablabla. Et on ne peut plus rien faire. Mais arrêtez.
Vérité
on est la septième puissance économique du monde.
Pas du
nous
tout.
Sommes la France.
En PIB, on ne cesse de dérangoler.
Nous sommes sur les cinq continents. Nous sommes une puissance maritime. Nous avons des entreprises qui fonctionnent beaucoup.
Ah, bah finalement, elles sont bien les entreprises du CAC 40. Alors finalement, là, vous les citez, là.
Mais nous avons des entreprises qui fonctionnent et du savoir-faire des travailleurs et des travailleuses. Bref, arrêtons ce pessimisme ambiant. Vous dites patriote, mais tous les jours, en fait, vous êtes là, oh, la France, ça va pas. Je ne partage pas ce pessimisme.
Merci, monsieur le sénateur.
On a fini. Je croyais qu'on allait faire de la politique, mais on fait, bon, bref, on a fait.
Vous reviendrez.
Vous trouvez que la campagne a vraiment commencé, la campagne présidentielle?
Les gens ne me parlent pas de ça.
Voilà.
Moi, les gens me parlent de la clim. Et de la canicule. Et ils me parlent aujourd'hui du prix de l'énergie.
Du pouvoir d'achat.
Et ils me parlent de leur salaire et du pouvoir d'achat. Voilà, tout le reste, c'est du blabla.
Vous allez au Sénat cet après-midi?
Non, puisque nous avons fini hier soir à 1h30. J'étais en séance.
Déjà?
Nous avons fini à 1h30.
Et vous reprenez quand?
En Bermuda?
Vous savez, quand on est sénateur, il y a d'abord le travail en commission. Il y a le travail en hémicycle et puis il y a le travail sur le terrain.
Et vous,
donc cet après-midi, je serai auprès des élus.
Il y a des sénatoriales en septembre, octobre?
En septembre, mais moi, je ne suis pas concerné, je serai en 2029.
D'accord.
En Ile-de-France, tout le monde sera réélu en 2029.
Merci, monsieur le sénateur de
Vous avez encore
Saint-Denis.
Le temps, mais m'invitez pas dans 3 ans.
Merci.
Parfait.
Et on vous réinvitera.
Avec plaisir.
Et vous reviendrez.
Je sais pas.
Si, avec plaisir. Vous l'avez.
Vous n'avez pas été victime d'une purge envoyée au goulag.
Merci.
Par votre camarade Brosse, là.
Allez, dans un instant, suite des GG.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules avec vous, bien sûr. Il nous reste 10 minutes de discussion, 10 minutes au cours desquelles vous pourrez prendre la parole avec nous, intervenir avec Florent Guébali, avec Charles Consigny, avec Jean-Loup Bonamy, notamment sur un dernier petit sujet de discussion concernant les canicules et l'accès aux piscines municipales. Ouais, c'est vrai qu'avec la canicule en ce moment qui concerne plus de 70 départements, ça fait 60 millions de Français aujourd'hui qui sont concernés par ces fortes chaleurs. L'accès aux piscines municipales est devenu un enjeu. Sauf que on a des communes aujourd'hui qui disent non. Désolé, l'accès aux piscines municipales, il est réservé aux résidents. Pourquoi ? Il y a deux communes là de région parisienne, Neuilly-sur-Seine et Rueil-Malmaison, parce que c'est l'afflux, elles sont dépassées par le nombre, par le monde. Et elles disent non, stop, on est obligé de laisser ça aux résidents. Quoi.
Alors déjà, il y a par exemple à Paris ou ailleurs, quand vous êtes résident, vous payez moins cher que si vous venez de l'extérieur. C'est normal, ces piscines municipales, elles ont été financées par l'impôt de ceux qui vivent là. Et donc c'est normal qu'elles comptent, qu'elles soient avant tout priorisées pour ceux qui habitent dans la ville. Après, il y a un autre élément que tu n'avances pas, mais soyons, on est dans les grandes gueules. C'est en fait, c'est pour éviter le bordel, parce que on sait très bien que dans des piscines comme à Neuilly viennent des gens de l'extérieur et qui
des jeunes des quartiers sensibles
et qui commettent ce qu'on appelle des troubles à l'ordre public, la pagaille dans la piscine avec le monde en plus puisqu'il fait très chaud, donc ces piscines sont remplies à ras-bord de baigneurs et de personnes qui sont là pour perturber, pour gêner, pour chercher des noix. Et donc, c'est une façon de sélectionner.
Ça, c'est intéressant.
C'est aussi un moyen de faire plaisir à leurs électeurs pour leur montrer que leur piscine n'avait pas débordé de monde. Effectivement, c'est des piscines municipales. Déjà, avant les canicules, quand il fait chaud, elles sont pleines à craquer de monde. C'est vrai que ce n'est pas agréable d'y aller, du coup. Donc, c'est juste pour faire plaisir à leurs électeurs. Je ne pense pas qu'il faille tout politiser à un moment. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, la canicule nous montre qu'on n'est pas adapté et qu'on n'a pas assez de piscine, on n'a pas assez d'espace climatisé, on n'a pas assez d'espace frais, voilà.
Non mais ça c'est intéressant parce que c'est des problèmes qui sont quand même bien connus, mais comme ça on voit qui sont les vraies victimes des racailles. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en fait ? Il y a Neuilly, une ville très bourgeoise, il y a une piscine.
C'est une très belle piscine.
Et donc Neuilly, une ville le problème c'est que en fait, c'est ça la vraie raison. C'est que t'as
chaque personne a aussi sa propre piscine.
Mais après, ça viendrait quand même sur les vraies victimes. T'as certains jeunes qui n'habitent pas à Neuilly, qui viennent de quartiers sensibles, qui viennent à la piscine et qui foutent le bordel. Et ça peut même se passer très mal. L'an dernier, il y a eu ce genre de scène dans plusieurs communes, dans plusieurs piscines, et il y a eu des scènes de violence, avec des maîtres nageurs qui ont été tabassés, la police qui a dû intervenir, des piscines qui ont été fermées justement pour cause de troubles à l'ordre public. Et donc, qui sont les vraies victimes quand Jean-Marc, jeune racaille d'une cité de Clichy, vient, ou de Nanterre, ou d'ailleurs, vient foutre le bordel à Neuilly. Qui sont les vraies victimes ? Les vraies victimes, c'est deux personnes. C'est la famille de Neuilly qui n'ose plus aller à la piscine à cause justement des intimidations, des menaces et du bordel. Et deux, c'est aussi le jeune. Par exemple, mettons le jeune Karim de Clichy, qui lui est très bien, très sympa, bien élevé, mais on va lui dire, tu comprends, t'es pas de Neuilly, donc tu peux pas venir, parce qu'en fait, dans le fond, il y a tes voisins de ta cité, que déjà tu détestes parce que tu dois les subir toute la journée, ils sont venus foutre le bordel à la piscine, et toi-même, désolé Karim, alors que tu n'as jamais posé aucun problème, tu ne pourras pas venir à la piscine de Clichy. Et donc, le jeune Karim, qui déjà subit les racailles dans son quartier, dans son collège, dans son voisinage, qui n'en peut plus, il peut même pas aller sortir de son HLM pour aller à la piscine de Neuilly, parce que ses voisins qui terrorisent son quartier ont déjà foutu le bordel à la piscine de Neuilly. Voilà. Donc voilà qui sont les vraies victimes.
Est-ce qu'on a raison de limiter les accès ou pas, Charles ?
En tout cas, je pense que les municipalités sont libres et ont même le devoir de se protéger effectivement de la racaillisation, du bordel, etc. Donc si elles ont envie de le faire, moi ça ne me choque pas du tout. On a tous vu les scènes à l'Aqua Boulevard, par exemple, ou dans d'autres endroits en France.
Mais le problème, c'est que tu pénalises tous les autres. Si tu interdis aux habitants de Clichy ou de Nanterre, j'interdis les racailles, mais t'interdis aussi.
Je pense que, je sais pas, ou alors ils peuvent refuser les groupes de plus de X personnes, enfin j'en sais rien. Mais qu'on sorte du politiquement correct pour quand même protéger les gens qui payent des impôts pour avoir une piscine municipale, ça me paraît pas extravagant. Si tu veux. Je comprends.
Oui, mais c'est pas normal.
La saturation.
C'est pas normal que le jeune de Clichy qui n'a rien fait, qui respecte les règles, qu'on l'interdise d'entrer à la piscine de Neuilly.
C'est pour ça que je te dis.
Parce qu'il y a des racailles qu'on fait du bordel.
Je te dis que par exemple, on pourrait faire des jauges, on limite, on dit pas le droit de venir à plus de 3, par exemple. Si on voit toute une bande arriver. Bah, non, mais j'en sais rien. Mais bref, j'en sais. On peut trouver des solutions.
Déjà, voilà. Si tu n'es pas résident de la piscine, enfin, si tu n'habites pas dans la ville où se trouve la piscine, peut-être que tu n'as pas le droit d'y aller, enfin, tout simplement. Déjà, on réserve la piscine aux habitants, déjà, ça limite.
Ça plaira pas à tout le monde, parce que certains te diront que les villes qui ont moins de moyens, elles n'ont pas de piscine municipale.
Ce qui n'est pas tout à fait vrai.
Parce que
souvent, il y a beaucoup de subventions.
Mais de toute façon, c'est
dégueulasse. Dans ces cas-là, est-ce que là, pendant des périodes exceptionnelles comme ça, tu mets, par exemple, toutes les piscines gratuites et ouvertes jusqu'à 22, 23 heures
pas,
ou minuit?
Eh bien, quelqu'un qui
tu
paye.
Tu vois, est-ce que tu fais ça? Est-ce que, mais le problème,
c'est
que derrière, il faut des moyens pour assurer la sécurité aussi.
Si non, mais le problème.
Dans la période exceptionnelle.
Non, mais le municipal, ça coûte rien quand
non, mais
résident.
Le problème, c'est que t'as des gens qui viennent pour foutre le bordel parce qu'ils ont absolument pas peur, parce qu'ils savent qu'il n'y a aucune répression. Moi, je suis pour que la piscine soit ouverte à tous, que tout le monde, sans distinction, y compris les gens des cités, puisse aller à la piscine de Neuilly s'ils le souhaitent. Mais le premier qui fout le bordel, il faut qu'il y ait une vraie répression et une vraie sanction.
Va des policiers
et comme il
n'y
en a pas,
chaque piscine,
non, mais t'appelles le commissariat et les mecs viennent. Voilà, si on était dans un pays normal, c'est comme ça que ça se passerait, quoi.
Il serait peut-être ravi.
Je trouve que vous êtes en train d'inventer une polémique, alors même que les piscines sont juste débordées de monde.
On a vu les scènes de l'an dernier, on a vu les scènes de l'Aqua Boulevard, on a vu les scènes en province.
Les mairies limitent l'accès pour faire plaisir à leurs électeurs, ce qui est à la fois compréhensible, c'est pas non plus la pire
manipulation. Mais
ne dis pas qu'on a inventé, on a vu des scènes avec des maîtres nageurs tabassés l'an dernier, voilà.
Il y a des bases de loisirs qui ont dû fermer d'ailleurs, l'été dernier. Il y en a une d'ailleurs qui a encore fermé.
On a vu l'intervention de la police.
À cause de problèmes. Angélique, justement, nous appelle des Yvelines. Bonjour Angélique.
Bonjour monsieur.
Bonjour, qu'est-ce que vous en dites Angélique? Est-ce que vous, je sais pas, vous arrivez à aller de piscine en piscine ou pas alors, dites-moi.
Alors, pas du tout, je suis allée à la piscine de Poissy hier, il y avait un monde énorme.
Oui, dans les Yvelines, voilà. La ville de Poissy, oui.
Oui, c'est ça. Étant détenteur d'une carte handicapée, je l'ai présentée et on me l'a refusée.
Pourquoi?
Eh ben, je ne sais pas, c'est un
trop
nouveau règlement, ils ne prennent pas la carte handicapée.
Il y avait beaucoup de monde, il y avait énormément de monde hier
oui,
ou pas?
Oui, il y avait énormément de monde, oui.
Alors, est-ce qu'on craignait peut-être pour votre sécurité? Il n'y avait pas assez de surveillance?
Non, je ne pense pas ça, parce que la police municipale est arrivée juste après. J'ai présenté ma carte handicapée, les gens me laissaient passer, mais c'est vraiment le vigile et la police municipale qui nous ont pas laissé
Et pourquoi? Je ne comprends pas la raison, pourquoi?
Eh bien, je ne sais pas, j'aimerais bien savoir moi aussi la raison.
Mais vous avez posé la question?
J'ai posé la question au vigile, il m'a dit que c'était le directeur qui avait dit que la carte n'était pas prise pour cette journée. Et la police municipale m'ont répondu, vous avez quand même su venir jusqu'à la piscine.
Et c'était quoi comme journée? C'était une journée spéciale hier, Angélique, ou pas?
Je ne sais pas du tout. Non, c'était pas une journée.
Et vous êtes résidente dans la commune de Poissy ou pas?
Non, pas du tout.
Ah, peut-être que...
Il y avait beaucoup de monde qui n'était pas résident de Poissy. Hein.
D'accord, donc là on a un petit souci inexpliqué pour Angélique qui est arrivée avec sa carte handicapée qui va interpeller... Monsieur,
Carl Olive nous écoute.
Il faut régler le problème d'Angélique.
Sur des voitures les soirs de match.
Qui nous appelle au 32-16.
Et Florian, bonjour. Florian dans le Finistère.
Bonjour. Bonjour. Moi, je vous appelais parce que, alors à Quimper, la piscine, elle va fermer là, pour cause de travaux.
Ouais.
Jusqu'à octobre.
C'est une bonne idée de fermer une piscine l'été.
Comment?
C'est une bonne idée de faire les travaux l'été.
Oui, et puis en plus de ça, il faut rajouter que toute l'année scolaire, les maîtres nageurs sont en conflit avec la mairie de Quimper et que à nombreuses reprises, les enfants ils avaient des cours de natation et tout ça ça a été annulé toute l'année. Alors on trouve ça délirant, c'est plus que délirant parce que Quimper est situé à une vingtaine de minutes de la mer. Du coup, les enfants, ils ont besoin d'apprendre à nager, hein. Et en fait,
c'est une obligation même.
on fait tout en fait pour leur refuser en fait l'accès à la natation dans cette commune quoi. Alors je dis pas le conflit, moi j'en ai rien à faire en fait. Je me dis que cette piscine elle devrait rester ouverte ou trouver des solutions parce qu'il y a une deuxième piscine ouverte à Quimper, sauf qu'elle est même pas adaptée en fait aux enfants. Voilà.
Ah, à Quimper, là, il fait quoi? Il fait 8 degrés en ce moment?
C'est la canicule.
Ouais, carrément. Je crois que j'ai 35 sur le compteur de la voiture.
Voilà. Alors, à Quimper, c'est des records, ça.
Ça, c'est vraiment, là, il y a de quoi s'inquiéter.
Et on nous demande, et du coup, on dit aux Quimperois, allez à 20 bornes de Quimper, à la piscine de Briec, en fait, pour pouvoir se baigner, quoi, pour pouvoir.
Et du coup, à Briec, ils vont dire, finalement, c'est juste réservé aux résidents et à ceux de la ville pour pas avoir l'afflux de personnes. Merci, Florian. 35 à Quimper aujourd'hui, donc combien?
Ouais, 35.
On
est monté à 40.
À Quimper, c'est dingue.
Avec la grosse coupure d'électricité qu'il y a eu.
C'est vrai, il y a le transfo qui a explosé pas très loin de chez vous. Tout est revenu, toute l'électricité est revenue ou pas?
Il va faire aussi chaud aujourd'hui.
Une bonne partie est revenue. En tous les cas, félicitations aux techniciens d'RTE d'avoir remis l'électricité aussi vite qu'ils pouvaient.
Merci Florian, merci d'avoir été avec un dernier mot, Jean-Loup.
Non, mais l'auditeur vient de nous dire, moi je voudrais parler d'une autre commune, l'auditeur vient de nous parler des enfants. Olivier, il faisait combien de là déjà dans l'école non climatisée de ton fils?
Il faisait 34
alors,
à 8h15.
Non mais moi je constate que la mairie de Paris a quand même des petits problèmes avec tout ce qui touche aux enfants. Parce que si tu additionnes l'exil des familles qui quittent Paris, parce que les familles fuient Paris, le périscolaire, qui est quand même un scandale gigantesque.
Et on recommande d'élire le point cette semaine.
Et les écoles non climatisées, décidément, les enfants, ce n'est pas trop le fort de la mairie de Paris.
Merci, mes chers GG. On se retrouve demain entre 9h et midi. Vous avez raté les grandes gueules, et les podcasts à votre disposition. Vous voulez continuer de débattre, de discuter. Estelle Denis avec son équipe sont là pour vous. Bonjour Estelle.
Salut Alain, salut les GG. On va parler de la canicule qui s'intensifie, bien sûr, dans Estelle Midi. Fatigue, école fermée, train annulé. Est-ce qu'il faut mettre la France à l'arrêt comme pendant le Covid? C'est la question qu'on se posera dans un instant au 32-16. En Aquitaine, il n'y a pas de train de 10h à 18h. On fait pour aller bosser, mais enfin voilà. On parlera également de Yann Barthès, hier, qui dans Quotidien s'est moqué des Français qui vivent sous les toits. Est-ce que vous trouvez ça marrant ou est-ce qu'au contraire... ça vous choque de se moquer
le racisme de classe et le mépris de la bobocratie, ça c'est très très connu. Le mépris de la bobocratie.
Ça coûte une tonne de vivre sous les toits à Paris, en tout cas.
C'est quand même des gens qui ont chaud et c'est pas forcément.
35 degrés en ce moment.
Pas forcément les plus fortunés.
Mais Yann Barthès, lui, a les moyens d'habiter ailleurs.
Nous en parlerons en tout cas à midi et demi.
Avec la clim.
À 13h30, faut-il interdire au ministre de partir en vacances en période de canicule? C'est en tout cas ce que veut faire Sébastien Lecornu.
Est-ce que ça changera quelque chose?
Je ne sais pas si le ministre en charge du numérique, ça servirait vraiment à quelque chose qui reste là pendant la canicule.
Madame Barbu, il faut qu'elle reste là, Madame Barbu.
On ne la voit pas.
Elle fait des prévisions météo.
Et puis, le dessin polémique de Didier Deschamps, de Charlie Hebdo. Vous savez, il y a marqué « Ramène la coupe à la maison » et on voit Deschamps avec l'urne funéraire de sa mère à la main. Est-ce que ça va trop loin ou est-ce que ça vous fait rire? Écoutez.
Je ris en direct. J'ai toujours aimé l'humour noir. Allez, 32-16 pour être avec Estelle.
Et le tu préfères
RMC, midi 15h. Estelle Midi.